19.
Lundi 4 janvier, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un témoignage exclusif sur France Inter, la Française Mélina Bouguedir, condamnée à 20 ans de prison par la justice irakienne pour avoir rejoint Daesh avec son mari, s'est confiée à Sophie Parmentier dans sa prison de Bagdad. On y revient tout de suite dans le journal et puis dans un quart d'heure environ dans le Zoom. Les autres titres, Agnès.
Au Venezuela, Nicolas Maduro rejette l'ultimatum des pays européens. Le grand débat national s'invite en banlieue. Emmanuel Macron est à Évry-Courcouronnes ce soir. La fin de l'espoir pour les proches d'Emiliano Sala. L'épave de son avion a été localisée au fond de la Manche. Et puis retour sur terre pour le PSG. Première défaite en Ligue 1 de la saison.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50. Léa Salamé, bonjour.
Oui, bonjour Nicolas. Elle avait dit sa colère à ce micro en mai dernier quand Emmanuel Macron avait balayé le plan Borloo. Elle sera ce soir à Évry-Courcouronnes parmi les 300 élus qui accueilleront le grand débat du président de la République en banlieue. Dans quel état d'esprit est-elle? Qu'attend-elle d'Emmanuel Macron? La maire de Chanteloup-les-Vignes, vous savez, la ville dont, qui avait servi de décor au film La Haine il y a 25 ans, Catherine Arnoux sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Venezuela, Brexit, retour des djihadistes français détenus en Syrie. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est l'invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter. C'est un débat qui agite la société française. Que faire de ces hommes et de ces femmes partis combattre aux côtés de Daesh? Après l'avoir exclu, le gouvernement envisage finalement de rapatrier les familles françaises actuellement aux mains des Kurdes de Syrie. Mais d'autres cas se posent, dont celui de Mélina Bouguedir, cette Française partie en Syrie en 2015, puis en Irak avec mari et enfant. Aujourd'hui, son mari est présumé mort. Elle a été condamnée à 20 ans de prison par la justice irakienne. Elle a accepté que ses enfants de 4, 6 et 8 ans rentrent en France où ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Elle est restée dans une prison de Bagdad avec sa petite dernière de 2 ans. C'est là que Sophie Parmentier, envoyée spéciale de France Inter en Irak, l'a rencontrée il y a quelques jours.
Je vais essayer de tenir. Mes enfants, je sais qu'ils vont bien. Je les aime beaucoup. Que j'espère que je vais bientôt les revoir. Qu'ils ne m'oublient pas. Voilà, moi, je pense toujours à eux. Et, voilà, et ma famille, je leur fais confiance. Je sais que c'est des gens bien. Je sais qu'ils s'occuperont bien d'eux. Et voilà, qui lâche pas, qui. Je vais essayer de rester endurante, parce que c'est difficile. Apparemment, on ne veut pas nous récupérer, donc. Et si l'État peut au moins autoriser des appels, ce serait bien quand même. J'aimerais qu'il y ait plus de photos, plus de lettres, plus de choses, quoi. C'est trop compliqué.
Mélina Bouguedir attend son procès en appel dans cette prison pour femmes de Bagdad où s'est donc rendue Sophie Parmentier. Reportage en longueur dans le Zoom de France Inter dans 10 minutes. Reportage à retrouver également sur franceinter.fr.
Il est 7h03, grand débat et manifestation toujours à la une de l'actualité ce matin.
Avec l'appel à la grève générale lancé par la CGT pour la journée de demain, un appel en direction des Gilets jaunes pour revendiquer ensemble une hausse des salaires et plus de justice fiscale. Appel déjà entendu par l'une des figures du mouvement, Éric Drouet, et par plusieurs partis comme la France Insoumise et le NPA. Et à la veille de cette journée de mobilisation, Emmanuel Macron poursuit, lui, le grand débat national qui s'arrête donc ce soir dans l'Essonne, à Évry-Courcouronnes, pour un échange avec des associations et des élus de banlieue populaire. La banlieue qui, pour l'instant, Clore-Chaudière, reste en marge de cette mobilisation.
Le scepticisme est si fort, à vrai dire, que plusieurs personnalités associatives se demandent si elles répondront présentes à l'appel du président.
Je ne sais pas en réponse.
Encore indécis, Mohamed Mechmash, d'Assez le Feu, membre du conseil présidentiel des villes, hésite à faire le déplacement. Trop de rendez-vous ratés, d'idées restées dans les tiroirs, comme il y a un an à peine encore avec le rapport Borloo, dit-il. Alors à quoi bon?
Ces choses ont été dites, ont été posées sur le papier. J'ai un peu de mal à continuer à y croire, quoi. Le gilet jaune, on le porte depuis ces 30 dernières années sur nous. Tous les jours, qui sont en train de revendiquer, c'est ce que nous, on revendiquait il y a 20 ans en arrière.
Le maire de Stain, en Seine-Saint-Denis, lui, ne ratera pas ce rendez-vous, même s'il fait partie de ces élus municipaux qui n'ont pas souhaité organiser de réunion publique selon le format imaginé par le gouvernement. La situation sociale dans sa ville est préoccupante, martèle Azedine Taibi.
Elle date pas depuis l'arrivée de Macron, elle est antérieure, mais Macron n'a pas forcément, je dirais, inversé la tendance. Au contraire, la place de l'État dans le quartier ne cesse de réduire, moins de policiers à Stain, des enseignants souvent pas remplacés. assez, j'attends de sa part un peu une conscience de dire que voilà, il y a une urgence.
De droite comme de gauche, les élus de villes populaires exprimeront aussi ce soir leurs doutes sur la pertinence de parler d'immigration et de laïcité dans ce grand débat national.
Plus de justice fiscale avec les pistes évoquées ce matin par Gérald Darmanin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics propose ainsi de diminuer le plafond global des niches fiscales ou de les mettre sous conditions de ressources pour qu'elles bénéficient aux classes moyennes et non plus aux plus riches, comme c'est le cas actuellement. Dans cette interview, Gérald Darmanin annonce également qu'il reste au gouvernement et renonce pour l'heure à la mairie de Tourcoing. C'est l'affaire dans l'affaire. L'ex-député écologiste Denis Baupin, accusé d'agression sexuelle et de harcèlement, a bénéficié d'un classement sans suite, les faits étant prescrits. Et il a décidé de poursuivre en diffamation 6 des femmes qui ont témoigné contre lui et les journalistes de Mediapart et de France Inter qui ont révélé l'affaire. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Au Venezuela, Nicolas Maduro ne lâche rien. Le président vénézuélien a rejeté hier soir l'ultimatum des pays européens, dont la France, qui demande l'organisation d'un nouveau scrutin, sous peine de reconnaître le président par intérim, Juan Guaido. Nicolas Maduro, qui a accordé hier soir un entretien à la chaîne de télévision espagnole La Sexta.
Je ne compte pas convoquer de nouvelles élections. Il y a déjà des élections présidentielles prévues en 2024, au moment où elles doivent être convoquées. Ça ne m'intéresse pas ce que dit l'Europe du Venezuela. Que l'Europe s'occupe de ses problèmes, du chômage, de la croissance économique, de l'immigration, mais qu'elle ne s'immisce pas dans les affaires du Venezuela. Mais qui dit que le monde peut exiger, en violation du droit international, d'imposer aux pays indépendants leur modèle politique? Le Venezuela a le sien.
Nicolas Maduro, la télévision espagnole et le Canada organisent cet après-midi une réunion de crise sur la situation au Venezuela. Le Pentagone, qui dans le même temps envoie 3750 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est une petite révolution en Pologne. L'émergence d'un candidat ouvertement homosexuel et résolument pour l'avortement dans un pays très catholique. À 3 mois des élections européennes où il compte se présenter, Romer Biedroń a lancé hier après-midi son mouvement devant plus de 6000 personnes à Varsovie. Thomas Giraudot y était, reportage.
Imagine de John Lennon en fond sonore, un slogan enfin le changement sur le pupitre et des idées révolutionnaires pour la Pologne. Libéralisation de l'avortement, union entre homosexuels, sortie du charbon d'ici 2035. Olga, une jeune femme, est convaincue.
Je suis pour cette idée de séparation de l'Église et de l'État. Et puis il soutient la communauté LGBT. Enfin, il est de gauche et je le suis aussi. Alors oui, je le soutiens.
Robert Biedroń a aussi un atout, son expérience à la tête de Słupsk, une ville de 100 000 habitants au nord de la Pologne, et il ne manque pas de la rappeler.
Comme dans ma ville, on peut parler aux habitants, et pas uniquement avant les élections. On peut améliorer la qualité de l'air. Et enfin, on peut éloigner l'Église de l'État. On l'a fait à Słupsk, et maintenant on va le faire dans toute la Pologne.
Mais l'homme fait pour l'instant cavalier seul. Il refuse aujourd'hui une alliance avec l'un ou l'autre des deux principaux partis, la PO et le PiS, trop à droite. Une bonne stratégie, selon Lala, une septuagénaire.
Tout simplement, Biedroń est un espoir pour ceux qui ne veulent voter ni pour la PO ni pour le PiS. Il est déjà à 10% dans les sondages, donc peut-être que c'est possible. Au contraire, s'il entre dans une coalition, il peut perdre beaucoup de ses électeurs.
Et d'après tous les spectateurs rencontrés, l'homosexualité de Robert Biedroń ne sera pas un obstacle à son ascension dans un pays pourtant très conservateur et catholique. Varsovie, Thomas Giraudot, France Inter.
C'est un mauvais rêve, je ne peux pas y croire. Le père du footballeur Emiliano Sala a réagi à la découverte de l'épave de l'avion qui transportait son fils. Épave qui a en effet été repérée hier matin au fond de la Manche. Marina Daras.
Les navires de recherche ont effectué plusieurs passages pour observer la zone de plus près avant de confirmer que l'épave retrouvée était bien celle de l'avion qui transportait Emiliano Sala. Le pilote de l'avion, David Ibotson, ainsi que le footballeur argentin de 28 ans sont tous deux présumés morts, mais la police espère pouvoir rapidement en apprendre plus sur les raisons de cet accident. Les recherches ont été menées par une société privée de chasseurs d'épaves à la demande de la famille du footballeur qui ne souhaitait pas abandonner les recherches et qui a fait un appel aux dons sur Internet pour financer cette opération. C'est le navire Morven avec à son bord le spécialiste de la recherche d'épaves en mer qui a sondé le sol marin en étroite collaboration avec le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens. Les deux navires ont donc sillonné une zone d'une quinzaine de kilomètres carrés au nord de l'île de Guernesey, là où l'épave de l'avion était susceptible d'avoir échoué. C'est désormais le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens qui sera chargé de remonter les débris de l'avion à la surface avec un robot sous-marin. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Il est 7h10, c'est actuellement la période la plus chargée pour le SAMU social de Paris.
6000 appels quotidiens aux 100 caisses dans la capitale et seul 1 sur 4 aboutit. Terrible pour ceux qui attendent dans le froid une solution d'hébergement. Difficile aussi pour les écoutants qui manquent de logements à disposition. Julie Pietri a passé une journée au pôle famille du 115.
Vous êtes enceinte de combien de mois, madame ?
Dans une salle tout en longueur, les écoutants sociaux, comme on les appelle, travaillent les uns à côté des autres. Ils lèvent régulièrement la tête pour regarder un panneau lumineux où s'affiche en rouge le nombre de personnes en attente. Le chiffre se met à clignoter.
Allô ?
Ce qui veut dire « ça y est, nous sommes saturés ».
Ah, la raccrochée !
Leïla répond au téléphone ici depuis un an.
On a pas mal de familles, de mamans seules. C'est vrai qu'elles se mettent à l'abri dans les hôpitaux, notamment dans les urgences. On a aussi des familles, des mamans qui viennent d'accoucher.
Est-ce que ça vous arrive de raccrocher ? En disant à une personne, madame, je suis désolée, mais ce soir, il n'y a pas de solution pour vous et votre enfant.
Bah oui, ça nous arrive. C'est un peu difficile de le dire.
Ok, wait, I'm going to call a translator.
Du coup, là, je vais appeler un traducteur parce que c'est une famille qui ne parle pas français avec un enfant qui a 3 ans, qui appelle depuis le 10 janvier. Et depuis le 10 janvier, il n'y a aucun hébergement.
Je vous entends très mal, madame la traductrice. Hein.
Pour dormir, vous m'avez dit dormir à la gare.
Allô ?
Reza, écoutant depuis cet été.
La détresse, on la reçoit pleine figure. On a des familles qui nous appellent, qui sont au bout de leur vie et qui sont en larmes. On n'est pas sur place, on ne peut pas prendre la personne dans nos bras et lui dire que ça ira. Mais la méditation m'aide beaucoup, on fait de notre mieux.
Reza touche environ 1400 euros nets par mois. Le travail ici est donc dur, pas très bien payé non plus. Il arrive régulièrement que les écoutants ne tiennent que quelques mois à leur poste.
Un reportage signé Julie Pietri. Le froid, la neige et le verglas qui perturbent la circulation des transports scolaires annulés aujourd'hui dans le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et dans une partie de l'Ardèche et de la Loire.
Et c'est une première défaite qui tombe mal.
À moins de 10 jours du choc de Ligue des Champions contre Manchester United, les Parisiens privés de Neymar se sont incliné à Lyon hier soir, 2-1, un match de clôture de la 23e journée de Ligue 1, Cédric Guillou.
Le Paris Saint-Germain n'a pas été rassurant, hein, un peu plus d'une semaine de son déplacement en Ligue des Champions à Manchester United. Battu dans l'engagement, dans l'intensité par les Lyonnais, pas toujours inspiré techniquement, les Parisiens n'ont pas été à la hauteur lors de ce choc. Le défenseur et capitaine du PSG, Thiago Silva.
On n'a été pas 100% concentré. Malheureusement, on n'a pas fait un super match. Parce que pour gagner des matchs comme ça, tu dois être 100% concentré. Aujourd'hui, même moi, c'était un peu plus difficile.
Les absences de Neymar devant et de Marco Verratti dans l'entrejeu ont forcément pesé lourd. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel ne se voile pas la face.
Le joueur manque, c'est clair. On n'a pas un deuxième Neymar, on n'a pas un deuxième Marco Verratti, c'est clair, mais j'ai confiance à mon équipe et j'ai confiance à tous les joueurs qui sont fit et je ne suis pas inquiété ou quelque chose comme ça, non. Il y a des choses d'améliorer, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui sont très bien.
Thomas Tuchel a un peu plus d'une semaine pour trouver une solution au problème de son équipe avant d'aller défier Manchester United à Old Trafford en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. À Lyon, Cédric Guillou, France Inter.
Privé de terrain, mais pas de dance floor. Neymar fête aujourd'hui ses 27 ans et s'apprête à célébrer son anniversaire entouré de 200 personnes au pavillon Gabriel à deux pas de l'Elysée.
Merci Agnès Soubiran.